Jeudi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue. Très heureux de vous retrouver jusqu'à 13h avec Manuel Mariani. Comment ça va, Manu?
Ça va pas mal, Philippe, et vous?
Écoutez, c'est bien. Je suis très impatient parce qu'on m'a dit qu'il y avait du couscous au poulpe aujourd'hui.
Ah non, pas aujourd'hui.
Ah bon?
On va en parler.
Vous me dites des choses, Manu. Ça fait une semaine que vous me dites.
Une
voilà.
Semaine qu'il nous vend un couscous au poulpe.
T'as vu ça?
Couscous au
Mérou. Non, mais ça, c'est Manu.
Non, non, c'était pour vous rendre jaloux. C'était pour vous dire que j'avais goûté le couscous au poulpe chez Torquia. Mais vous n'en aurez pas aujourd'hui. Mais vous aurez peut-être des fricassés si vous êtes gentil.
Ah, si, c'est des vrais fricassés. Ouais. Ah ouais. Vous avez compris, on va parler de cuisine tunisienne, entre autres, aujourd'hui, Manu.
Oui, absolument. On va parler de la cuisine tunisienne, les origines, les influences, les plats phares de la cuisine tunisienne. On va parler aussi du championnat du monde des cuisines du monde. C'est pas une erreur, il y a bien monde deux fois dans l'intitulé. Et puis c'est même in Seine-Saint-Denis, qui aura lieu le 24 septembre 2022. Et on aura pour cela au téléphone Alessandra Montagne, du restaurant Nosso, qui fait partie d'un des deux jurys de ce concours. Et puis, on vous parlera des livres de la semaine. On a fait une petite sélection pour les auditeurs, Philippe.
Très bien. Mais avant ça, nous avons des invités, justement, qui sont là pour parler de cuisine tunisienne.
Absolument. Eh bien, nous avons Sarah, du restaurant Torquia. Alors, Torquia, on vous en avait parlé pendant le ramadan avec nos influenceurs et nos influenceuses food.
Oui.
On vous avait parlé du restaurant Torquia, donc, qui est né comme un bar à fricassé, mais qui est devenu beaucoup plus que ça au fil du temps, parce qu'on y mange plein de bonnes choses. Et puis Sarah, tant qu'à faire, elle est venue avec son papa, qui s'appelle Farhat. Donc c'est bien, comme ça aussi, on a une référence
bonjour aux auditeurs, bonjour BFM. Bonjour BFM. Alors, je commence mal,
c'est pas mal, c'est très mal.
Ouais, parce que sinon, on aurait fait une émission contre la cuisine tunisienne.
Non,
on est pour la musique tunisienne, donc c'est Beurre FM. Ouais. BFM, c'est les dessous de la cuisine tunisienne et l'islamisme. C'est deux choses différentes.
Voilà, et vous l'avez compris, donc c'est Tariq qui
intervient
réalise l'émission.
Quand une invitée fait
réalise voilà. L'émission.
Oui, et qui
merci
fait.
Merci Tariq de me reprendre. Voilà.
En tournée dans toute la France et sur l'antenne de Beurre FM.
Bien sûr. Merci. Mais non, mais il n'y a pas de souci. C'est pas la première fois qu'on nous dit BFM. Hein.
C'est vrai?
Voilà, oui, vraiment. Tout le temps.
Très longtemps.
D'ailleurs, les auditeurs de BFM n'écoutent pas Beurre FM.
Exactement.
Alors que les auditeurs de Beurre FM regardent.
Ben, surtout. Radio et très souvent, Manu, on le prend pour Zemmour. Alors, rien à voir. Physiquement, c'est deux personnes totalement différentes.
Ouais, enfin, c'est Zemmour de Warzazat. Hein,
c'est Zemmour de...
Bien. Pourquoi est-ce que les Tunisiens mangent épicé?
Alors, pourquoi
est-ce que c'est vrai ou pas?
Oui, c'est vrai.
Ah bon?
Vraiment vrai.
Mais pourquoi ça vient d'où, ça?
Ça vient d'où, papa? Tu nous donnes une idée?
De toutes les façons, c'est la Tunisie, c'est
la chaleur,
les gens ils sont vraiment chauds.
Oui, mais au Maroc et en Algérie aussi.
C'est
ouais.
Pas la même chose, c'est différent. Ouais. Les épices, c'est différent, mm-hmm. C'est très différent. On oui. A des régions vraiment, par exemple Nabel, quand vous dites Nabel, c'est la rissa, c'est le piquant, c'est les plats très très piquants. Voilà, le sud aussi.
Le sud.
Et des vrais Tunisois aussi.
Non, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le piment, souvent dans certaines cultures, c'est aussi ce qu'on appelle un alicament, c'est-à-dire un aliment médicament en même temps.
Tout à fait.
Ça permet, ça a des vertus désinfectantes et donc assainissantes. Et puis le fait aussi de manger pimenté, ça aide à supporter la chaleur.
Comme le thé voilà, dans le désert.
Comme le thé dans le désert.
Mon père, il avait 92 ans. Si on ne lui met pas le piquant, il jette.
Il ne mange
tout.
Pas.
Il ne mange pas.
C'était fade.
Voilà, c'est exactement.
Après, au restaurant, chez Torquia à Paris, évidemment, c'est adapté. Par exemple, ma salade de poivrons grillés, c'est une salade méchouilla, mais c'est que des poivrons. Et tout ce qui est. Tous mes plats du vendredi soir, parce que les plats du jour, je les fais uniquement le vendredi. Sinon, toute la semaine, c'est uniquement des fricassés et des casse-croûtes. Et moi, justement, j'ai revisité la cuisine tunisienne avec mes fricassés. On a le thon classique avec la rissa, pour ceux qui veulent. Encore une fois, je l'ai fait minute devant le client. Mais j'ai aussi revisité un fricassé au poulet, salade de poivrons grillés, et un autre végétarien avec un écrasé de carottes à l'ail et au cumin, et de la feta bio, et toujours sans harissa. C'est vraiment adapté à tout le monde. Je sais que moi, j'ai des familles, des enfants qui viennent manger un peu de toute culture et de toute origine. Donc, j'ai vraiment décidé aussi de casser les codes sur ça, parce que c'est vrai que souvent, quand des clients ne connaissent pas ma cuisine, ils viennent me voir et me disent « c'est piquant ou pas ?» Et je leur dis « non, c'est piquant à votre guise.
Ah, » C'est vrai que dans l'esprit des gens, la cuisine tunisienne, c'est la harissa, et la harissa, c'est pimenté, mais toutes les harissa ne sont pas forcément pimentées.
Tout à fait.
Plus ou moins. Vous savez, d'ailleurs, Philippe, on en avait parlé il y a quelques temps, l'harissa, il y a une AOSC maintenant.
Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la harissa alors ?
Alors, en fait, c'est des piments, c'est de la pâte de piment. Après, c'est dans le choix des piments que ça va être piquant ou pas. On peut très bien prendre des piments doux et le parfumer uniquement avec de l'ail. Moi, par exemple, j'ai une harissa maison vapeur qu'on parfume. C'est piquant, mais ce n'est pas, c'est pas pimenté. C'est un tout petit peu. Juste
mais il y a quoi alors dans votre harissa maison ?
Uniquement du piment, de l'huile d'olive, des épices, du carvi, et après, en fait, le piment est séché au soleil, en amont.
De l'ail, du sel.
Voilà, de l'ail, du sel, du citron. En fait, ça dépend des maisons, parce qu'après, il y a des gens qui font leur propre harissa, comme chez moi. Ça dépend, en fait, des recettes traditionnelles, de l'héritage de nos grands-parents, ce qu'ils nous ont laissé comme recette.
Voilà, et puis maintenant qu'il y a une AOC, il y a un cahier des charges. Donc, si vous
et qu'est-ce qu'ils mettent dans le cahier des charges, Manu ?
Alors, une liste d'ingrédients. Les piments doivent venir de certaines régions. Mm-hmm. Ils doivent être séchés au soleil, comme c'est le disait Sarah.
À la vapeur, ça se voilà. À la vapeur aussi.
Ouais. Et voilà. Et puis, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Oui, c'est vrai, on a des petits soucis de son aujourd'hui, Philippe. Hein.
Ouais, mais si tu parles à 3 mètres du micro.
Hein. Non, j'étais pas si loin que ça. Enfin, je peux coller au micro. Non, mais il y a effectivement des variantes, mais la base c'est vraiment le piment séché, l'huile d'olive, le sel et l'ail. À partir de ça,
on fait ce qu'on veut.
Variantes, mais c'est là vraiment la base.
Mais est-ce que c'est vraiment les Tunisiens qui ont inventé la harissa ?
Alors ça, je pense.
Est-ce qu'on est sûr ou ?
Je pense que chaque région. Moi, par exemple, là récemment, je suis allée au Mexique. Ils ont un piment qui s'appelle habanero, qui ressemble énormément à l'harissa. Donc, je pense qu'en fait, c'est suivant les régions, chacun a sa pâte de piment. Maintenant, ça s'appelle harissa parce que ça vient de la Tunisie, ils l'ont nommé comme ça. Mais je pense que suivant les régions et souvent là où il fait chaud et le sud surtout, là, on retrouve beaucoup de pâtes de piment. Donc voilà, c'est je
aussi
pense.
Le cap. Bon de la Tunisie, c'est-à-dire Nabel, Kelibia.
Le sud.
C'est pas le sud, c'est le Cap Bon. Mais c'est vraiment l'harissa. Quand vous allez, par exemple, à Nabel, à Kelibia, à Benikiar, c'est l'harissa.
Voilà, non, mais je confirme. Sortes.
Mais quand vous dites c'est l'harissa, ça veut dire quoi ?
Ils sont reconnus pour l'harissa. Voilà, ils les produisent très très bien là-bas. Moi, mes clients, par exemple, mon harissa vient de Nabel. Là, tout de suite, ils disent « Ah, c'est l'harissa de Nabel, oh, super !»
Voilà, et donc je précise une chose, c'est que vous parliez du fait de similitude entre des piments sud-américains et l'harissa, ce qui est logique parce que le piment, il est arrivé en Tunisie au XVIe siècle suite à un échange colombien pendant l'occupation espagnole.
Ça m'étonne pas.
Et donc, c'est colombien qui sont venus en Tunisie, qui ont ramené leurs piments,
et ben voilà.
Qui vont avec. Et c'est ce qui a donné naissance à la culture de ces variétés de piments en Tunisie. Et ce qui prouve donc que l'harissa, c'est bien la Tunisie, le berceau de l'harissa. Après, ça s'est diffusé dans tout le Maghreb. On avait déjà, dans d'autres pays du Maghreb, des pâtes de piment, mais l'harissa, c'est bien tunisien.
Ok.
Alors, la cuisine tunisienne, Manu, c'est une cuisine sous influence. Lesquelles ?
Alors, elles sont très, très nombreuses parce que c'est vrai qu'on trouve beaucoup de similitudes entre la cuisine marocaine, algérienne, etc., même si les deux s'en défendent. Mais c'est vrai que la Tunisie, elle est un peu à un carrefour entre... c'est un peu une clé de voûte de la Méditerranée. Hein. On n'est pas très loin du Levant, on n'est pas loin de la Grèce. On est très proche de l'Italie, on est proche de l'Afrique, on est proche des autres pays du Maghreb. Et du coup, il y a des origines berbères, puniques, arabes, juives, turques, grecques, italiennes. Mm-hmm. Et ce melting pot fait que... Et puis elle a un climat aussi qui est un petit peu... qui ressemble un peu aussi et au climat européen et au climat des pays arabes.
Méditerranéen.
Je pensais que ce sont les Tunisiens qui ont inventé les pâtes à la arrabbiata.
Non, je ne pense pas.
Ah bon?
Mais
on se bastonne un petit peu avec les Italiens, justement.
Mais ouais, ça se dispute, la paternité.
Ouais, énormément, sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu pendant beaucoup de temps une civilisation italienne, en fait, des agriculteurs. Je crois que c'est en 1800, quelque chose, qui sont venus en masse en Tunisie. Et du coup, ils nous ont rapporté aussi une culture. Ils ont cuisiné aussi leur mets, etc. Et ça s'est mélangé, en fait. Donc, par exemple, quand vous allez à Naples, voilà, vous pouvez retrouver beaucoup de cuisine tunisienne. Il y a beaucoup de Tunisiens là-bas aussi. Donc, c'est vrai qu'on se dispute beaucoup de plats avec les Italiens. Maintenant, voilà, nous, le partage, c'est le mieux. En Tunisie, il y a eu les Ottomans, les Italiens, des Juifs tunisiens. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une richesse.
Les Turcs aussi.
Ouais, les Turcs.
Et inversement, il y a eu des Berbères tunisiens qui étaient en Sicile, par
exactement.
Exemple. Et en Sicile, mange le couscous au poisson, le couscous de Rouget, qui s'écrit couscous, C-U-Z. Et c'est vrai que il y a eu. Comment dire, un principe de vaste communicant entre l'Italie et le.
Ouais.
C'est pour ça, par exemple, que le bouillon du couscous en Tunisie, il est toujours rouge. C'est parce qu'au Maroc, en Algérie, il n'y a pas la culture du concentré de tomates.
Exact.
Alors que les Italiens ont ramené le concentré de tomates en Tunisie. Et c'est pour ça que la shorba tunisienne aussi, par exemple, elle est très rouge.
Rouge.
Elle n'est pas marron ou blanche.
Les pâtes aussi.
Les pâtes.
Les pâtes que j'ai faites hier. Hier, j'ai fait les pâtes boulettes. C'est des petites pâtes en fait qu'on fait
maison. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et en fait, ces pâtes-là, c'est vraiment revenu pendant très longtemps dans un concentré de tomates. Notre sauce, elle est épaisse. C'est vraiment revenu pendant longtemps avec de l'ail et d'autres épices. Et c'est vrai que souvent, on me demande, mais c'est quoi la différence avec les pâtes à la tunisienne? Pourquoi pâtes à la tunisienne? C'est tout simplement le concentré de tomates et le temps de...
Les épices qui vont...
Et voilà, exactement.
Surtout la façon à préparer les boulettes.
Oui, si. Ça, c'est les on a chacun notre secret.
Vraiment, c'est trop bon à déguster.
Alors Philippe, d'ailleurs, tiens, une petite devinette. Quels sont les plus gros mangeurs de pâtes dans le monde, à votre avis?
Les Tunisiens.
Eh oui, exactement. Oui.
J'ai fait un rapprochement par rapport à l'émission. Hein, voilà,
moi, j'aurais dit les Japonais, mais bon.
Ouais. Mais non, justement, peu de gens le savent, mais les consommateurs numéro un de pâtes dans le monde, ce sont les Tunisiens. Et
non pas les Italiens.
Les pâtes, c'est pâtes, pain, tout ça, mais les Italiens, ils sont.
Oui, enfin les céréales en général. Voilà. Hein, les céréales dans la culture gastronomique tunisienne, c'est incontournable.
Tout à fait.
C'est une cuisine très marine, hein, Manu, aussi, également, puisqu'on vous parliez tout à l'heure des couscous de poissons, mais il y a effectivement beaucoup de poissons.
Au Mérou.
Oui. Alors, au Mérou, il y a ce qu'on appelle les complets poissons aussi, qui est à la fois dans la tradition tunisienne, mais dans la cuisine juive tunisienne aussi, hein, ce complet poisson. Il y a le couscous au poulpe, on mange beaucoup les fruits de mer, on mange donc les calamars, les poulpes, etc. Et la petite spécificité hein, par rapport au Maroc, l'Algérie, où on consomme beaucoup le poisson grillé ou frit. C'est vrai qu'en Tunisie, on cuisine
le
poisson, on en fait des ragoûts, on en fait des bouillons, des couscous, et même des salades d'ailleurs.
Oui, des salades aux poulpes, des crevettes, même les shakshuka aussi, shakshuka crevettes ou poulpe ou alors calamar, enfin toutes les sauces.
Et il y a aussi les boulettes de sardines.
Oui.
Ah, la sardine en Tunisie, c'est sacré.
Ça, les boulettes de sardine, on en trouve dans tout le Maghreb, en Libye aussi. Mais c'est vrai que chaque recette est un petit peu différente.
Suivant les épices.
Celles de Tunisie sont un petit peu plus pimentées, justement. Voilà. Au Maroc, elles sont plus sur des épices cumin. C'est des petites variantes après.
Mais il y a du couscous aux boulettes.
Bien sûr. Mmh. Oh, oui. Couscous, oui. On le fait avec absolument tout. On a même, par exemple, on fait un couscous avec du chou. En fait, c'est les personnes qui ne mangent pas de viande, par exemple. On prend du chou et on met à l'intérieur, en fait, du riz avec pour ceux qui ne mangent pas.
Ah, le
osben. Ouais, le osben. Pour ceux qui osben. Parce que le osben, en fait, c'est avec de la panse, vous voyez, des tripes, etc. Voilà, mais pour ceux qui ne mangent pas la panse, comme moi, par exemple, eh bien, on fait le couscous avec uniquement des légumes, mais comme si c'était de la viande, un peu comme ils font maintenant les burgers vegan. Bah,
les on fait des boulettes.
On fait des boulettes, mais de légumes.
Le lasban.
C'est pareil.
C'est ça.
Oui, mais le lasban kabyle. Les boulettes, le couscous aux boulettes, c'est les juifs qui nous a appris
à les faire. Oui. Oui, avec
alors,
le pain rassis.
La différence, justement, des boulettes qui sont. Des boulettes de viande, là, je parle maintenant, qui sont dans le couscous tunisien par rapport aux boulettes
de kefta,
qu'on trouve en Algérie et en Tunisie et au Maroc. C'est que les boulettes qu'on met dans le couscous tunisien, elles sont. La viande est mélangée. Alors, dans certaines régions, on mélange avec de la pomme de terre cuite vapeur qu'on a écrasée pour la rendre plus moelleuse. Ou on mélange avec du riz qu'on a cuit longtemps aussi, qu'on écrase. Oui. Et cette boulette, on la fait mijoter dans le bouillon.
Exactement.
Et donc, elle est très goûteuse, très moelleuse. Alors qu'en Algérie, au Maroc. Les keftas qu'on va servir avec un couscous, c'est plus des grillades qui viennent à côté voilà. Et qui n'ont pas exactement. Mijoté dans la sauce. Exactement. Donc c'est une différence.
Très très bien renseigné. Je me demande si tu rentres pas dans ma cuisine.
Manuel, la cuisine, c'est une longue histoire.
Hein. Et oui.
On parle de la cuisine tunisienne ce matin dans Dessus de Table. Alors, souvent mal connue, on va vous justement essayer de bien vous l'expliquer ce matin. On parlera de cuisine tunisienne et de cuisine du monde tout à l'heure également, Manu.
Oui, avec Alessandra Montagne, qui est jurée du championnat du monde des cuisines du monde, in Seine-Saint-Denis. On vous parlera de ça dans la deuxième partie de l'émission.
Dessus de Table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Alors Tariq, il faut choisir. Soit tu réalises, soit tu manges.
Bah, j'essaye de faire les deux, c'est dur.
Là, il parle la bouche pleine. Là,
mais alors t'es au P ou t'es au T là?
Je suis à l'Africa Céton, c'est très bon.
Au thé. On est en train de. On parle de cuisine tunisienne ce matin et on fait une émission en dégustant des fricassés de thon. Hein,
absolument. Des fricassés tunisiennes que nous a ramené Sarah du restaurant Torquia. Donc, bar à fricassés, mais pas que, puisque le week-end, on y trouve aussi des plats du jour de cuisine tunisienne. Et alors, les fricassés sont délicieuses. Hein. On vient de faire non pas un crash test, mais un crunch test. En direct. Ah,
c'est féminin ou masculin, fricassé, tiens d'ailleurs.
Alors c'est moi j'ai dit un fricassé en français, oui. Mais en Tunisie on dit une fricassée.
Moi donc, je le mettrais masculin
Oui moi je le mettrais masculin oui. Un fricassé.
D'accord.
Oui.
Vous avez dit délicieuse pour ça.
Oui mais parce que je suis.
Non parce que c'est vous Manu ça ce côté un peu.
Je parle inclusif.
C'est ça.
Parce qu'il y a des fricassés qui pensent qu'elles sont non genrées.
Oh, c'est de ma faute, j'aurais pas dû vous lancer. Bon, Manu, quels sont les plats phares de cette cuisine tunisienne que nous vous évoquons ce matin?
Ah, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors déjà, on peut parler des soupes. Il y a un livre tunisien qui parle des soupes de la cuisine tunisienne. Il y a pratiquement 40 soupes différentes, plus les déclinaisons pour chaque soupe, vous imaginez, qui sont répertoriées. En fonction des régions, en fonction des ethnies, parce qu'évidemment, il y a des soupes plutôt berbères, plutôt nomades, etc. Alors, la plus commune, c'est la chorba. La particularité en Tunisie, c'est que la chorba, bon, on la trouve avec de l'agneau, on la trouve sans viande, mais on la trouve aussi avec du poulet ou avec du poisson, ce qui est plus rare dans le reste du Maghreb. On peut l'accommoder avec du fric, comme en Algérie, mais aussi avec des petites langues d'oiseaux qu'on mange énormément en Tunisie, les langues d'oiseaux. C'est les coquillettes tunisiennes. Voilà. La chorba fric qu'on fait en Tunisie, là aussi, on peut la faire avec du poisson, avec de l'agneau, du poulet, mais aussi avec de la viande de veau, ce qui aussi est une particularité, une spécificité tunisienne. Il y a une soupe qui s'appelle le zder aussi. Le zder, c'est une soupe avec de la semoule qu'on consomme beaucoup pendant les fêtes. C'est plutôt dans les campagnes. Hein, le zder, c'est pas une soupe qu'on mange principalement dans les villes. Voilà. Alors il faut parler du lablabi aussi. Le lablabi, c'est une soupe.
Enfin, de pois chiches et de pain.
Ouais, mais c'est comme les soupes vietnamiennes un peu. C'est un plat de résistance. Mais on appelle ça une soupe parce qu'effectivement, il y a du bouillon. Mmh. Alors, c'est une soupe dans laquelle il y a, Philippe, du pois chiche, des croûtons de pain, de l'huile d'olive, de la rissa, de l'ail, du sel, du cumin, un peu de jus de citron. Et c'est un emblème de la cuisine de rue, hein, de la street food tunisienne, parce qu'on trouve du lablabi dans vraiment toutes les
H24 rues, les gens s'arrêtent pour aller chercher le,
voilà. En pleine nuit, on mange du lablabi.
Surtout quand il fait froid.
Le lablabi à Bizerte, ils le font en sandwich.
Ouais, vous imaginez du pain dans du pain. Et c'est très bon.
C'est que des protéines à l'intérieur.
Voilà. Et puis il y a les broudous aussi. Alors, les broudous, c'est entre le ragoût et la soupe. Hein. On pourrait dire que c'est une espèce de pot-au-feu. Alors après, il y a des salades. Bon, je ne vais pas parler de la méchouia.
On fait beaucoup, beaucoup de légumes et on les cuisine, en fait. Surtout, la particularité en Tunisie, c'est par exemple, on a le kafteji.
Oui.
Le kafteji, en fait, c'est uniquement des légumes de saison en général. Mais bon, là, il y a beaucoup de variantes suivant les régions. Et le tout est frit. Et ensuite, grossièrement coupé, on a une technique avec deux couteaux. On rajoute de l'huile d'olive et des épices, bien sûr. Et on sert ça soit en sandwich ou alors en salade. Et moi, quand je la présente en plat du jour le vendredi, souvent les clients qui ne connaissent pas me disent « Mais comment ça se fait que je ne connais pas la cuisine tunisienne ?»
Et ça, c'est une salade qui fait... On appelle ça une salade, mais ça fait vraiment... office de plat de résistance,
ah oui.
Parce que le kafteji, il y a les légumes frits, donc il peut y avoir des courgettes, du potiron, des poivrons, des pommes de terre, selon les saisons, mais on y met aussi du foie,
des merguez,
de veau, des œufs frits coupés en morceaux,
c'est ça.
Et puis tant qu'à faire, on rajoute un peu de sauce tomate relevée avec de l'ail,
et de l'ail,
on peut mettre des boulettes de viande, et encore un peu d'harissa,
et oui.
Donc c'est une salade, mais c'est une salade, quand on la mange, on ne prend pas un plat derrière.
Composé.
Non, c'est vraiment un plat. Quand je le présente, c'est en plat du jour, vraiment. Ou alors en casse-croûte, donc en sandwich, pour manger sur le pouce. Ou sinon, un plat avec un œuf, des merguez et un morceau de pain où vraiment on peut bien manger.
Et puis une salade qu'on mange beaucoup à Djerba, notamment. Hein, c'est la salade de poulpe. Hein,
oui.
Vous avez compris, je suis un fan de poulpe. J'étais très ami avec un poulpe dans ma jeunesse. Et
il nous en a beaucoup parlé.
Oui, oui.
Ouais,
non, mais là, c'est
son expérience avec un couscous au poulpe.
On a parlé avec Nadia, ouais.
Pas normal d'avoir
un ami poulpe.
Un ami poulpe.
On va faire notre coming out avec Monsieur Poulpe.
Exactement. C'est peut-être, hein, c'est pas.
Alors, oui, non, la salade de poulpe, mais qu'on fait aussi avec des fruits de mer, comme les sèches, les calamars. Des crevettes, on trouve des très grosses crevettes, hein, qui sont des grosses gambas en Tunisie, qui sont magnifiques. Et donc, c'est une salade dans laquelle on rajoute de l'oignon vert, vous savez, de la cive, parfois des tomates. Et puis c'est une espèce de sauce, un peu comme une sauce vierge. C'est une sauce avec de l'oignon vert, parfois un peu de tomate, de l'huile d'olive, du citron,
et
de l'harissa.
Et ça pour amener un petit peu d'acidité.
Et c'est délicieux. Ça, c'est vraiment délicieux.
Bien. Alors, avant de parler du fricassé, Manu,
oui.
Parce que ça, c'est un sujet important et central, le fricassé, on va aller s'intéresser à la cuisine du monde.
Oui, absolument. Parce que la semaine prochaine, samedi prochain, va se tenir à Saint-Denis le championnat du monde des cuisines du monde. Hein. Je dis deux fois monde, c'est pas un accident, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça aura lieu le 24 septembre dans un lieu qui s'appelle Zone Sensible à Saint-Denis. Cela se tiendra à partir de 10h et c'est ouvert au public, donc tout le monde peut y aller. Et d'ailleurs, pour en parler, alors il y aura deux catégories, hein, dans le concours. Une catégorie recettes de famille, donc là c'est ouvert aux amateurs. Et puis une catégorie cuisine et création, là c'est pour des cuisiniers professionnels. Pour en parler plus en détail, on a avec nous Alessandra Montagne, la chef du restaurant Nosso, qui elle est présidente du jury de la catégorie recettes de famille. Bonjour Alessandra.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bon, merci de prendre quelques minutes en plein service pour nous parler, puisque vous avez ouvert récemment un restaurant qui s'appelle Nosso, près de la bibliothèque François Mitterrand, dans le 13e arrondissement, où je suis venu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, pour déjeuner.
Merci.
Et où j'ai passé un très bon moment. Alors, les championnats du monde des cuisines du monde, donc c'est ouvert à la fois aux amateurs dans votre catégorie et aux professionnels dans la catégorie d'Amaury Bourse, qui lui est jury de la catégorie cuisine et création.
Oui, exactement. Donc, il y a Olivier Darnay avec l'équipe de Zone Sensible qui a monté ce projet. Je trouvais ça génial de faire participer et les familles et les professionnels. Et moi, j'ai plus dit la catégorie cuisine de maison, cuisine de famille. J'adore cuisiner à la maison. Tous les souvenirs culinaires qu'on a, c'est des cuisines qu'on a mangées de la grand-mère, de la tante, à la maison quand on est petit. Donc, c'est la cuisine qui marque. Et je suis très, trop contente.
Oui, alors, justement, vous parlez de cuisine de famille. Dans votre catégorie, vous avez trois finalistes. Alors, il y a Mouen et Safina, la nièce et la tante, qui font de la cuisine comorienne, hein, puisqu'elles sont d'origine comorienne. Vous avez Fatoumata et Aminata, qui vont faire de la cuisine sénégalaise. Et Sarah et Emilena, qui vont faire de la cuisine péruvienne. Donc, on va se régaler. Alors, les visiteurs peuvent goûter au plat ou pas?
Alors, je ne sais pas les quantités qu'ils vont préparer, mais je pense qu'il y aurait un petit peu pour les premières arrivées.
Oui, sinon, ça, il va y avoir une révolte.
Oui, je ne connais pas la cuisine du Comore. Je suis très, très curieuse.
Bah oui, vous êtes curieuse des cuisines étrangères, puisqu'on a peut-être remarqué à votre accent... Comme votre nom ne l'indique pas, Montagne, vous êtes née au Brésil.
Oui, je suis née à Rio.
Alors, est-ce que ça vous influence, vous, dans votre cuisine de tous les jours, ces racines brésiliennes?
Ah oui, forcément. Je pense à quand je vais faire un plat, une recette, avec ma tête, mes souvenirs de cuisine brésilienne, des épices que j'ai mangées quand j'étais petite. Donc, je mets forcément un peu du Brésil dans ma cuisine. Même si j'essaye de rester en région parisienne au niveau de surfing et en France surtout, mais on met forcément un peu de ce qu'on est, quoi.
Oui, ça c'est une des particularités de votre cuisine, c'est que vous essayez d'être au maximum locavore. Mais une deuxième chose, c'est que quand vous cuisinez un légume, une volaille ou autre, vous cuisinez absolument tout. C'est-à-dire que la cuisine anti-gaspi, ça pour vous c'est un truc... très important.
Ah, oui, c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à une alimentation adéquate, c'est inadmissible de jeter de la nourriture.
D'ailleurs, dans un récent numéro de Masterchef, je crois qu'il y a eu une épreuve spéciale anti-gaspi, et c'est vous qu'on a fait venir pour être juré de cette épreuve. Hein.
C'est ça, j'espère que j'ai réussi à passer quelques chips pour les gens chez eux. Parce que en fait, on peut vraiment ne rien jeter si on fait attention.
Oui, et puis en plus tout est bon, je veux dire, hein, dans un légume, dans une viande.
Parfait. Alors, quels étaient les pays qui étaient présents dans la cuisine du monde? Parce que quand on parle de cuisine du monde, qui était représenté?
Alors, on a de la chance d'être à Seine-Saint-Denis, où il y a plus de 40 nationalités, donc il y a eu beaucoup de monde de l'Inde, il y a eu aussi du Brésil, il y a eu plusieurs pays d'Amérique du Sud, beaucoup de pays africains. Donc on a eu un gros travail pour pouvoir choisir les finalistes, mais il y a beaucoup de monde.
Oui, alors, dans la deuxième catégorie, ça c'est assez original, je trouve, parce que la catégorie cuisine et création, donc c'est Amaury Bourse, que je connais bien, qui est le chef du Meurice. Donc la catégorie cuisine et création, là c'est en binôme un chef professionnel et un artiste. Et donc ils vont faire des assiettes artistiques, très graphiques, très colorées, peut-être des sculptures, je ne sais pas. Ça, je trouvais ça assez original. Mais c'est vrai que, bon, par rapport à notre sujet du jour, qui est la cuisine tunisienne, hein, la cuisine du monde, on était en plein dedans et ça nous faisait plaisir de parler de cet événement. Alors, si vous ne connaissez pas Alessandra Montagne et que vous voulez la rencontrer, et si vous voulez suivre cette finale, vous pouvez y aller parce que c'est ouvert à tous. Donc, c'est la semaine prochaine, le 24 septembre. Ça commence à 10h. Donc là, c'est votre finale à vous, hein, recette de famille, de 10h à midi. De 12h30 à 13h45, il y aura un déjeuner autour des jurys du concours. Et de 14h à 17h, vous aurez la finale catégorie cuisine et création avec Amaury Bourse. Donc n'hésitez pas à vous rendre là-bas. Donc le 24 septembre, à partir de 10h à Zone Sensible, 112 avenue de Stalingrad à Saint-Denis. Et puis n'hésitez pas aussi d'aller découvrir la cuisine d'Alessandra Montagne dans son restaurant Nosso, dans le 13e arrondissement à Paris.
Merci Alessandra. Beaucoup.
Merci à vous.
Alors dans un instant, nous allons parler, on va continuer à évoquer les stars de la cuisine toulisienne avec les plats de résistance. Et puis Manu, c'est la rentrée littéraire également pour les livres de cuisine. Vous avez fait pour nous la sélection des livres de Dessus de Table.
Une petite sélection, oui.
Dessus de Table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Alors là, on cherche des dessous de table, hein, quelqu'un qui pourrait payer un café à Tarek.
Exactement, hein, je suis en train de faire la mendicité. Mais j'ai un avoir de 2,30€.
Oui,
j'ai la boulangerie d'en bas.
Oui,
qui fait d'ailleurs la boulangerie d'en bas qui fait des fricassés.
Ouais, la production de Gad Elmaleh lui pas encore payé ses premières parties non, et du coup Gad, il rame pour très payer bien un café.
Mais j'ai jamais piqué, tu vois, j'ai qu'une carte bleue.
On parle de fricassés parce qu'on parle de cuisine tunisienne aujourd'hui et il y a fricassés. Et fricassé.
Et fricassé, parce qu'en bas, il y a frit plus loin cassé. Donc,
non, le boulanger d'en bas, fricassé. Il est. Il y a riff.
Non, mais le mec d'en bas, il est. C'est chaud. Hein.
En tout cas, c'est cher.
C'est cher et on ne sait jamais ce qu'il y a dedans.
Bon.
Il dit du thon, mais.
Regarde, c'est comme la salade niçoise. Est-ce qu'il y a une vraie recette du fricassé? La vraie, la déposée de. Ou pas?
En fait, je pense que ça dépend des familles, hein, vraiment. Mmh. On a chaque famille a sa recette. Bon, après, oui, il y a la recette de base, mais il y en a qui vont mélanger deux sortes de levures.
C'est quoi, c'est thon, œuf, pomme de terre, ça.
Ah, vous parlez de ce qu'il y a à l'intérieur ou de la pâte?
Alors non. Déjà, il y a le pain déjà.
Ah, moi, je parlais du pain, mais en parlant du fricassé, moi, j'ai clairement cassé les codes avec mon fricassé poulet et veggie. C'est-à-dire que mes clients, quand ils viennent et qu'ils voient fricassé poulet ou veggie, ils me disent mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous faites ça?
Vous n'avez pas honte.
Voilà. Alors que là, le poulet, depuis 3 mois, a dépassé le thon.
Ah oui.
Il a dépassé le thon depuis 3 mois. Donc maintenant, ma clientèle, ça y est, elle s'y est accommodée au fait qu'on revisite le fricassé. Mais oui, en Tunisie, le fricassé, c'est uniquement thon, pommes de terre, olives et persil, voilà, persil, harissa. C'est tout. Et les œufs. Et il n'y a pas de version revisitée ou non, pas du tout. Et moi, je voulais m'amuser un petit peu et voir titiller un petit peu la gastronomie tunisienne. Et ça a fonctionné parce que maintenant, de plus en plus de Tunisiens prennent le veggie ou le poulet. Il y a même maintenant, depuis la rentrée, j'ai fait aussi le fricassé du chef, selon mon humeur. Ah. Donc, je demande aux clients s'ils ont des allergies.
Quand elle est de mauvaise humeur, Sarah, il y a beaucoup d'harissa dedans.
Exactement, c'est ce que je leur dis d'ailleurs. Et petite parenthèse, juste Manuel, il m'appelle Sarah, donc moi c'est Torquia Sarah.
Oui, votre vrai prénom c'est Torquia.
Voilà, j'ai deux prénoms en fait, c'est Torquia et Sarah. Et voilà, quand j'ai commencé en fait, mon papa m'a légué sa boutique il y a maintenant 1 an et demi.
Il n'a pas l'air d'accord, vous lui avez pris sa boutique, non?
Piqué sa boutique.
C'est ça, vous lui avez piqué sa boutique.
Et vous aviez une cordonnerie clé minute à l'endroit où il y a Torquia.
Et en fin de compte, j'avais confiance en elle. Je l'ai trouvée très courageuse, vraiment.
Et donc, vous avez cédé le.
J'ai cédé et j'ai donné. J'ai donné, c'est une donation. Et je suis content pour elle. Je suis fier vraiment de ce qu'elle fait. Elle va avancer, c'est sûr. Je suis sûr et certain qu'elle va grandir et qu'elle va réussir.
Bientôt, c'est Torquia International.
Voilà, j'aimerais bien.
Parce que vous, à la base, vous n'êtes pas du tout dans la restauration. Bossiez au bon marché.
Tout à fait. Je travaillais pour différentes marques, dernièrement à APC. Et pendant en fait, le confinement, on s'est tous retrouvés à pas faire grand-chose. Moi, je me suis mis à la cuisine avec ma maman, ma famille un petit peu. Et en fait, un jour, j'ai dit à ma mère, et si je me lançais un Instagram et je commençais à vendre des fricassés et des petites choses de gastronomie tunisienne? Elle m'a dit, allez, lance-toi. J'ai commencé avec un menu sur un week-end. Au début, c'est mes amis qui m'ont soutenue. Merci à eux de Levallois Perret, d'ailleurs, qui m'ont tous commandé, en fait, les fricassés. Et tout de suite, en fait, on a commencé à faire tourner un petit peu mon Instagram.
Effet boule de neige.
Des blogueurs qui commencent à venir vers moi aussi. J'avais même pas encore la boutique. J'avais rien encore. Alors, je travaillais plus à ce moment-là au bon marché. Je me suis lancée à 100% dans l'aventure toute la semaine.
Mais depuis la maison, là, on est d'accord.
Depuis la maison, vraiment.
Livraison faite à la main par
moi-même ou mon papa qui m'a beaucoup aidé aussi parce que des fois, les personnes voulaient à midi, mais aussi midi 30. Donc, on était à deux. Et ma mère aussi en cuisine, vraiment un peu tout le monde. Et petit à petit, en fait, grâce au Traki, parce que c'est comme ça que j'appelle mes clients, Traki. Oui.
qui ils ont un petit nom, les clients.
Voilà, parce qu'en fait, c'est mon surnom d'enfance. C'est comme ça que m'appellent mes parents, Traki. Du coup, moi, j'ai décidé aussi d'appeler mes clients, mes Traki, qui, eux, m'ont beaucoup, beaucoup soutenue. Ça veut dire que quand j'ai commencé les travaux dans la boutique, je faisais des sondages, en fait, sur Instagram. Et c'est eux qui ont choisi, par exemple, mon carrelage, qui ont choisi pratiquement mon logo. Ils ont participé à toute l'aventure.
Et c'est un resto participatif.
C'est ça. Et souvent, les clients, dès qu'ils rentrent, ils me disent « Oh là là, j'adore vos stories, je regarde tout ce que vous faites. » Et j'adore cet échange-là. Voilà, donc petit à petit, il y a des nouveautés. Là, c'est fricassé toute la semaine avec les casse-croûtes. Et le vendredi, de 18h30 à 22h, j'ai décidé de faire un plat du terroir tunisien qui change à chaque fois. Souvent, je demande aux clients ce qu'ils aimeraient manger en sondage toujours. Et là, depuis, il y a une petite nouveauté depuis septembre, c'est le brunch le dimanche, donc qui est présenté de 12h30 à 15h30 et de 18h30 à 22h.
Mais pas cher.
Et il est à 15,90 avec une ftira ou alors un bambalouni, qui sont des beignets, soit salés, soit sucrés, un fricassé et un gâteau fait maison par moi ou ma maman. Ça peut être le millefeuille tunisien, ça peut être obzetfe qui a le gâteau
corandère. Je précise d'ailleurs que Philippe est en train de nous découper des parts de millefeuille tunisien que vous nous avez ramené.
Voilà, donc on va pouvoir avoir...
Il est très bon.
Pourquoi tu es déçu en le disant?
Non, non, je suis pas déçu. Ah non, il est très très bon.
J'ai été obligé de payer mon café, vous avez vu?
Ah, il a payé son café et franchement, il passe, mais il est très très bon. Il est incroyable. Les fricassés sont géniales et le millefeuille est super bon.
Merci beaucoup.
J'ai vraiment bien aimé.
Alors, pourquoi on appelle ça le millefeuille tunisien?
Car il y a moins d'étages.
999 feuilles.
999 feuilles. Il n'y a pas toutes les feuilles, en fait.
Pas toutes les feuilles.
Non, c'est tout simplement différent, en fait, du millefeuille français où on va avoir un vrai feuilleté, vous voyez, un peu plus croustillant. Tandis que là, il est plus imbibé, vous voyez, de la crème. On rajoute aussi de la fleur d'oranger. Et sur le glaçage, c'est un mélange caramel et café. Donc, c'est pas la même recette.
On sent bien la rissa dans le millefeuille.
Non, ne dites pas ça.
C'était le ton.
On sent bien la rissa dans le millefeuille.
Non, je suis pas d'accord, il craque.
Il craque quand même.
Il craque autant qu'un millefeuille, même presque plus.
Moi j'ai les olives dans le mien.
Mais Manu, j'avais demandé olives.
Oui, j'avais demandé olives.
Option olive.
Il est très bon.
Non, il craque très très bien. Non, franchement, la crème pâtissière est magnifique.
Et moi, je voulais préciser une chose. Moi qui suis, comme vous le savez, Philippe, un bec salé et pas du tout un bec sucré. J'aime pas trop le sucre, mais là, c'est pour ça que je me méfie toujours d'ailleurs des desserts du Maghreb ou du Moyen-Orient. Parce qu'en général, c'est 8 kilos de sucre pour 100 grammes de pâtisserie. Là, franchement, c'est pas trop sucré, donc voilà. Bravo. Parce que,
justement, j'essaye de casser les codes un petit peu là-dessus, concernant toutes les pâtisseries que je présente au shop. Voilà, j'essaye que ça ne dégouline pas. Quand vous voyez mes plateaux de pâtisserie, ben non, ça ne dégouline pas. Voilà, j'ai pas besoin de problème de... C'est vrai qu'on met beaucoup de miel, de sucre, etc. pour la conservation, pour que ça reste longtemps. Mais moi, j'ai pas vraiment besoin. J'aime bien quand ça part vite. Ben, je refais, c'est pas un problème. Et puis voilà, comme ça, on me dit pas, ah oui, mais c'est trop sucré. Ben non, en fait, c'est la juste dose. Et souvent, d'ailleurs, même dans mes plats salés, on va me dire, on peut avoir du sel ou du sucre.
Alors Manu, quelques livres culinaires pour la rentrée. Les grands chefs se sont mis et sont passés à table.
Oui, pas que des grands chefs d'ailleurs. Alors attendez, je suis en
table des matières. Qu'est-ce qu'il y a, Manu?
J'ai des feuilles partout.
Ouais, c'est ça. C'est les mille feuilles.
Pas le Instagram.
C'est ça. Moi,
Torquia. Ah ben oui. Paris.
De toute façon, on va redonner l'adresse, on va tout donner à la. Mais si c'est écrit dessus, Tariq.
C'est Torquia Paris.
Excusez-moi, j'ai tapé avec un Y, je ne sais pas pourquoi.
Ça peut, parce que c'est vrai qu'on dit Torquia, comme la voiture Kia.
Voilà, non, en fait, il voulait juste torpiller ma chronique sur les livres.
Non, vas-y. Je suis en train de regarder là. Sur le Insta, il y a 10 000 fololos quand même.
Oui, oui.
C'est bien.
Merci.
Alors, les livres de la semaine, Philippe. Un livre que j'ai bien aimé, ça s'appelle « Moi qui l'ai fait pour toi ». C'est un livre de Caroline Suarez. Et comme son nom l'indique plus ou moins, c'est un livre qui donne des recettes de famille. Caroline Suarez, l'auteur, qui est illustratrice, qui fait aussi du design textile, etc. Elle a une famille où on se retrouve souvent, où tout le monde cuisine quelque chose, etc. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de faire ce livre. Donc, « Moi qui l'ai fait pour toi », 40 recettes de famille. Et c'est aux éditions La Martinière, Philippe. Ensuite, une petite et grande histoire des céréales et légumes secs. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que bon, ça a été fait par un ingénieur agronome et sociologue qui s'appelle Éric Birlouez. Il est consultant dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. Et il enseigne l'histoire et la sociologie de l'alimentation dans les écoles d'ingénieurs, dans des universités en France et à l'étranger. Et il a fait déjà une vingtaine d'ouvrages un peu plus techniques, hein, des ouvrages plus d'ingénieurs. Mais là, c'est vraiment un livre qu'on peut lire comme un... Alors, il y a aussi des recettes, évidemment, mais c'est un voyage dans l'espace et dans le temps, nourri d'anecdotes, pour explorer toute la diversité et la spécificité des céréales et des légumes secs. Donc, c'est Petite et grande histoire des céréales et des légumes secs aux éditions Coyer.
19h25, qu'est-ce qu'on va manger ?
Eh bien, si vous ne savez pas, Philippe, ce qu'on mange à 19h25, eh bien, vous achetez le livre qui porte ce nom-là. 19h25, qu'est-ce qu'on va manger ? 80 recettes saines, faciles et rapides. C'est Marie Tchoka qui répond à cette épineuse question. En 80 recettes saines, simples et rapides, elles sont classées par catégorie, selon les situations que l'on rencontre dans le quotidien. Frigo vide, en mode chrono, dîner détox, batch cooking, dessert du soir, famille de morfa. Voilà, il y a vraiment toutes les situations. Et ça fait quand même la part belle aux légumes et aux ingrédients bruts. Hein. Ce n'est pas un livre de cuisine qui vous dit pour cuisiner vite, on ouvre 3 conserves. Ce n'est pas du tout ça. Et puis, c'est un livre qui fourmille aussi de conseils d'organisation pour pouvoir faire des repas sympas sans passer des heures en cuisine. Donc, c'est 19h25. Qu'est-ce qu'on va manger de Marie Tchoka aux éditions Terre Vivante.
Shervan, voyage sur ma route de la soie, et c'est Akram Benalal.
Oui, qu'on a invité plusieurs fois, mais qui n'a jamais voulu venir nous voir.
Non, il faut le dire.
Mais
non,
il faut le dire.
Il a dit non, je ne veux pas y aller. Donc
je ne veux pas y aller. Non. Donc, il n'a pas voulu venir, mais comme nous, on n'est pas rancuniers, on parle de son livre parce qu'il est pas mal.
Il est trop snob.
Voilà. Ben oui, c'est ça, chef étoilé, c'est pas pour nous. Pourtant, on a reçu des 3 étoiles Michelin. Ouais. Des meilleurs ouvriers de France aussi, mais il le savait peut-être pas. Alors. Shirvan, voyage sur ma route de la soie à travers 60 recettes. Ce sont un peu les recettes de son restaurant Shirvan. Il y a aussi un Shirvan à Marrakech, à Doha. Et donc, c'est un livre qu'il a fait en collaboration avec Philippe Toinard, qui est célèbre journaliste gastronomique, hein, notamment à BFM TV et pour la revue 180 degrés. Et ce sont des photos de Valérie Guède, photographe culinaire. Donc, Shirvan, c'est une province d'Azerbaïdjan. Donc, rien à voir avec les origines d'Akram. Mais c'est un des grands carrefours de la route de la soie, mais de la route des épices aussi. Mmh. Et du coup, c'est un hommage aux cuisines épicées et à travers toutes les épices de l'Orient.
On se régale, Manu, avec Arnaud Delven.
Oui, Arnaud Delven. C'était un finaliste de la saison 13 de Top Chef. Et donc, dans ce livre, il nous livre ses meilleures recettes pour créer des souvenirs inoubliables. 45 recettes qui sortent de l'ordinaire et faciles à exécuter. C'est aux éditions Michel Lafon.
Est-ce que Manu, vous voulez un peu d'eau ou pas ? Parce que je vous vois là mourir en direct sur scène. Alors, c'est pas filmé, voilà. Donc on fera pas de vue.
Mais on sera témoin de ton accident de travail, ça c'est sûr. C'est
vrai. Moi, je suis comme Dalida, je veux mourir sur scène.
Est-ce que, c'est bien, vous voulez... elle est morte dans un appart.
Oui, mais, c'est ça.
Pas de poids, c'est loupé, mais...
Attends, je te demande d'apporter un peu d'eau à Monsieur Mariani et tu parles de sa mort imminente. C'est pas mal.
Attends,
Manu.
Tiens. Non, mais tout va bien.
Sauvetage de Manu.
Manu, je viens te sauver. J'arrive de te faire un petit massage.
Un petit livre qui s'appelle Partage. Partage. Ça va très bien d'ailleurs aux deux auteurs de ce livre qui sont Ali Rebehi.
Notre confrère,
journaliste, producteur, animateur du magazine Grand Bien Vous Fasse sur France Inter. Très bonne émission que vous suivez d'ailleurs, Philippe.
Ah, moi, j'écoute Ali, mais depuis des années. En plus, c'est un Toulousain en plus, Ali.
Ouais, absolument, comme vous. Et depuis janvier 2021, il anime aussi Bel et Bien sur France 2 avec Agathe Le Caron. Et il s'est allié avec le chef Grégory Cohen, qu'on a déjà reçu dans cette émission. merci, Tarek. Chef et animateur télé aussi, hein, à son époque, Grégory Cohen, ils ont fait un livre qui s'appelle Partage, 70 recettes simples et conviviales, avec un credo, bien manger, c'est aussi bien vivre. Hein, c'est leur devise qui signe ce livre de cuisine, pas comme les autres, donc celui de deux amis épicuriens.
Bien, moi, je voudrais savoir pourquoi le tagine tunisien s'appelle tagine, quand même.
C'est à cause du plat, en fait, parce que avant, maintenant, on a les fours, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, c'était le plat, dans le plat à tagine qu'on le cuisinait sur le feu, en fait. Même notre tagine à nous.
D'accord.
C'est tout simplement à cause du plat. Mais c'est
le
plat.
Ça n'a rien à voir,
ça. Ça n'a rien à voir avec la recette ou bien, voilà, nous, par exemple, les tagines marocains, on appelle ça marqa.
La marca,
oui. Voilà, la marca, donc ça va être marca, voilà, ça veut dire sauce en fait, tout simplement, ou bien ragoût.
Ragoût, voilà,
ragoût, dire c'est plus ragoût. Donc nous, mais nous, notre tagine, c'est comme une
c'est une omelette.
C'est une tortilla, voilà.
Ouais,
comme,
c'est ça.
C'est pas une omelette vraiment parce que ça se fait au four, etc. C'est comme une tortilla espagnole. C'est le ce qui se rapproche le plus, c'est la tortilla espagnole, mais on rajoute un peu plus d'ingrédients dedans.
Voilà, c'est pour ça que quand vous demandez un tagine tunisien, vous risquez d'être surpris si vous ne connaissez pas
absolument
la cuisine tunisienne.
Ouais, c'est ça.
Allez, on rappelle les coordonnées de nos invités. Nous avons eu au téléphone Alessandra Montagne pour nous parler du championnat du monde des cuisines du monde et son restaurant, c'est le Nosso 22 Promenade Claude Lévi-Strauss dans le 13e. Et puis le restaurant Torquia de notre invitée Sarah qui est sur le plateau avec nous, 79 rue Blanche Paris 9 et Instagram Torquia Paris.
C'est ça, tout à fait.
On a validé en direct les fricassés de thon et de poulet. On a validé également le millefeuille tunisien. Merci d'avoir été avec nous.
Invitation.
Merci Tariq de nous avoir ouvert les micros, en tout cas aujourd'hui.
C'est normal. Si je ne le fais pas, personne ne l'aurait fait.
C'est vrai. C'est ce côté bon, c'est toi.
C'est évident. Hein.
Bon et bon. Et Manu, on vous retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end sur Beurre FM.
Bon week-end. Merci.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.